Étrange sentiment en regardant la série Game of Thrones hier soir. Alors je sais ce que vous allez me dire, que je suis très en retard, mais la façon dont ces épisodes résonnent avec l'actualité ou ce qui nous attend très prochainement mérite qu'on s'y penche et qu'on y passe un petit peu de temps. Il était question de déplacement, d'hommes et de femmes forcés de se déplacer, d'une étrange population marchant vers le sud, sorte de barbares, semant la terreur et menant une invasion saison après saison. On les imagine pilleurs, violeurs, tueurs. On a construit un mur pour s'en protéger. De l'autre côté de ce mur, plus on va vers le sud, et moins on y croit à cette situation. On préfère faire la guerre pour s'arroger le trône de fer. C'est pas faute d'avoir été prévenu, pourtant, par cette phrase qui hante la série depuis la toute première saison. Winter is coming. L'hiver est sur le point d'arriver. Il n'est question que de cela, dans Game of Thrones, d'une éternelle saison, d'un dérèglement, ou plutôt d'une catastrophe climatique qui mènera les hommes à leur perte et qui commence par un exode, celui des populations du nord, qui se déplacent vers le sud, réfugiés climatiques qu'on accueille tant bien que mal. Combien de populations seront bientôt contraintes à la migration? Pour des raisons similaires, d'ici à 2050, on parle de 100 à 400 millions de réfugiés chassés de leur pays par les conséquences du dérèglement climatique. Il ne s'agit plus de se préparer, mais de répondre à un défi, sans doute le plus grand défi d'aujourd'hui.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Est-il déjà arrivé à mon invité de méditer devant Game of Thrones, lui qui, depuis plus de 40 ans, se consacre à l'étude et à la pratique du bouddhisme quand il ne s'exerce pas à l'écriture ou à la photographie? Contemplation, 40 de ses photos seront exposées lors des rencontres de la photographie d'Arles à partir du 2 juillet et prendront place à l'intérieur d'une installation gigantesque et éphémère, tout en bambou. Bonjour Mathieu Ricard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Devant quel défi est-ce qu'on se trouve actuellement?
C'est le grand défi du 21e siècle, que vous avez mentionné, le défi climatique, parce que ça va bouleverser la planète à un degré qu'on imagine à peine. Vous avez parlé des migrants qui vont du nord au sud, probablement ça va être évidemment le contraire.
L'inverse, oui.
En raison du réchauffement, c'est 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés de réchauffement, c'est une planète qui est quasiment méconnaissable. C'est environ, comme vous l'avez dit, 250 millions de réfugiés climatiques. Alors là, on parle maintenant de la crise des réfugiés, mais ça, rien par rapport à ce qui risque de se produire. C'est aussi... D'ici 2050, 30% de toutes les espèces vont disparaître sur Terre. Et ça n'affecte pas simplement un tigre rare de Sumatra ou une espèce de grenouille. C'est un bouleversement profond de ce que va être la planète.
Le manque de réaction, Mathieu Ricard, de nos gouvernements, qu'est-ce que ça dit de nous?
Alors ce qui déprime, mes amis climatologues et scientifiques, c'est que nous avons les moyens de remédier à cela. Mais simplement, il y a un manque de volonté. Alors que la COP21 a fait un grand pas, mais malgré tout, bien insuffisant. Le problème, c'est qu'un homme d'État prend aux prochaines générations et un homme politique aux prochaines élections. Et on ne peut pas être élu sur une plateforme qui serait impopulaire, où il y aurait des mesures où on devrait forcément réduire beaucoup de choses dans notre goût du superflu.
C'est intéressant que vous fassiez cette distinction entre homme d'État et homme politique. Si on prend
c'est
au hasard,
Winston Churchill qui l'a dit. Qui a
par
dit
exemple, Emmanuel Macron, dont vous aviez salué la volonté écologique au début de son mandat, est-ce qu'on est face à un homme politique ou à un homme d'État, Mathieu Ricard?
Regardez, quand on a vu l'élection d'Obama, tout le monde avait beaucoup d'espoir. On continue à avoir des espoirs sur celui d'Emmanuel Macron, mais évidemment, il faut faire les réformes nécessaires. Nicolas Hulot sait ce qu'il faut faire. Il faut lui donner suffisamment de pouvoir de le faire. Bon, moi, je suis pas mêlé dans ces questions de décision, mais c'est sûr que ces décisions, il faut les prendre. Et le problème, c'est que, si vous voulez, l'égoïsme ou n'avoir pas assez de considération pour les générations à venir, ça ne sera pas la solution. Moi, j'aime bien citer mon marxiste favori, qui est Groucho Marx. Et Groucho Marx a dit, je ne sais pas si vous connaissez, c'est
bah oui.
Mes favoris, il a dit « Pourquoi me préoccuperais-je des sorts des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Donc, c'est à peu près ce que Donald Trump dit tous les jours. Donc, si vous voulez... Il faut de la considération d'autrui. C'est le seul concept qui permet à des spécialistes de l'environnement, à des hommes politiques et à des financiers de s'asseoir à une même table pour essayer de construire un monde meilleur.
Ce que vous nous dites, Mathieu Ricard, en fait, c'est que nos gouvernants manquent de cette valeur que vous n'avez jamais cessé de mettre en avant, qu'est l'altruisme. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'altruisme?
Alors, l'altruisme, c'est le désir d'apporter du bien-être à autrui. La compassion, c'est le désir de remédier à la souffrance et à ses causes. Mais une simple attitude altruiste ne suffit pas si on ne met pas la main à la pâte. Il faut traduire l'altruisme en action.
Est-ce que vous pensez que ça s'enseigne, l'altruisme?
ça s'enseigne, ça se pratique surtout. Parce qu'on sait très bien maintenant, avec 2000 ans de sciences contemplatives, par l'entraînement de l'esprit, ce qu'on appelle aussi la méditation, et en maintenant en neurosciences, on sait très bien que quand on s'entraîne à quoi que ce soit à jouer du badminton, à jongler, ou à jouer aux échecs, mais aussi à entraîner son esprit à davantage de bienveillance, davantage de compassion, votre cerveau va changer structurellement, fonctionnellement, vous allez être différent d'une certaine façon, et donc un comportement prosocial amélioré, d'où des meilleures relations humaines, d'où un meilleur jugement quant au long terme et pas seulement à l'opportunisme au court terme. Donc tout ça permet aux individus de changer. Quand ces individus plus bienveillants, qui sont davantage concernés par le sort d'autrui, quand leur nombre atteint une masse critique, c'est une évolution des cultures. Et après, ces nouvelles cultures, cette population, disons, qui a une idée dominante et forte, peuvent changer les institutions.
Contemplation, c'est le titre sous lequel sont réunies les 40 photographies qui seront bientôt exposées dans le cadre des rencontres photographiques d'Arles. Où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise pour contempler le monde, vous ?
Bon, moi, je vis depuis 50 ans dans l'Himalaya, c'est sûr que...
Dans les montagnes.
Dans les montagnes, parce que peut-être cette immensité, au bord de la mer aussi. Hein, c'est, moi, j'ai toute une famille de côté de ma mère et de mes oncles qui sont des grands navigateurs. Donc, l'immensité de la mer, tout espace qui est ouvert, où il y a un grand ciel, un grand espace... et où finalement notre esprit se mêle sans difficulté et avec joie à l'environnement extérieur. Si vous voulez méditer dans les embouteillages, c'est possible. Non, mais c'est possible. Mais vous nagez à contre-courant. Tandis que face à 200 km d'Himalaya devant vous, la méditation coule d'elle-même.
Vous vous souvenez de la première fois que vous y êtes rendu en Himalaya? Ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti?
Alors je m'y suis rendu, pas pour voir les montagnes, encore j'étais très content de les voir, à Darjeeling. En 1967, au mois de juin, et j'ai rencontré Kangyur Rinpoche, qui était mon premier maître spirituel. Et là, brusquement, j'ai vu autre chose. C'est-à-dire que jusqu'alors, j'ai connu des grands philosophes, des penseurs, des peintres, des artistes, des explorateurs, des scientifiques. Et j'étais souvent admiratif de leur capacité, de génie propre qu'ils avaient dans leur domaine. Mais c'était rare qu'il y ait une adéquation parfaite entre un génie particulier, comme de jouer aux échecs ou de résoudre des équations mathématiques, et des qualités humaines. Donc c'était intrigant ou déconcertant. Tandis qu'un maître, on dit, c'est un grand maître spirituel, mais dommage qu'il soit tout le temps de mauvaise humeur, ça marche pas. Il doit avoir une cohérence parfaite, le messager doit être le message, et c'est quelqu'un qui vous inspire par ce qu'il est, et pas seulement par l'art ou les connaissances qu'il a intellectuellement.
Vous savez, il y a une de vos photos qui m'a particulièrement marqué, c'est celle du monastère de Namo Buddha, que vous avez prise donc au Népal il y a 9 ans. Vous vous souvenez de cette photo, du moment où vous l'avez prise?
Et oui, là j'avais passé presque un an assis sur mon derrière à attendre la lumière, ce que aucun photographe, moi y compris, peut faire d'habitude.
Sauf,
que,
long,
sauf hein. que j'attendais rien, parce qu'en vérité, j'étais en retraite dans mon petit ermitage, qui fait 3 mètres sur 3, avec une grande baie vitrée. Et il y a eu deux fois dans l'année un moment magique où j'étais en train de prendre le thé vers 6h30 du matin sur le terre-plein devant mon ermitage. Il y a un monastère qui est à 3 km de l'autre côté de la vallée, qui est sorti brusquement au milieu des nuages,
oui,
avec un petit rayon de soleil sur le toit doré, et on a l'impression qu'il est suspendu dans les nuages. Et c'est vrai que c'est ces moments-là, il faut être là. Et vous venez pendant 15 jours, vous ne verrez rien, mais si vous êtes là dans la durée, donc les photos vous prennent plus que vous les prenez.
Puis on dirait une estampe, cette photo.
Et oui, puis il ne faut jamais être pressé. Et en plus, il faut vivre. Moi, je ne suis pas là pour vous faire de la photo, mais quand il y a un moment fascinant, merveilleux, ben je suis là.
Vous savez, la question que vous posez, j'ai l'impression, Mathieu Ricard, à travers votre pratique de la photo, c'est ni plus ni moins celle de l'impact de l'art sur l'existence. À votre avis, quel rôle est-ce que peut jouer l'art dans notre compréhension du monde ?
Alors, je ne suis pas un théoricien de l'art, mais dans le contexte, dans le milieu dans lequel je vis, celui du bouddhisme tibétain, l'art sacré, l'art traditionnel, est un élément de transformation sur le chemin. Alors, on aime, tous les êtres humains aiment danser, chanter, courir, peindre, dessiner, et on essaie d'intégrer ça à un chemin spirituel. Donc, on dessinera des objets de méditation, certaines représentations de la compassion, de la connaissance. Les danses sacrées seront symboliques. L'art est aussi symbolique. Une déité qui a deux bras, c'est la sagesse et la compassion. Dans la photographie, ce que j'essaie de faire, c'est de donner confiance dans la nature humaine, de voir que la beauté intérieure des êtres humains, l'émerveillement devant la nature pour la protéger. Donc de montrer en fait plutôt la bonté originelle que le péché originel, je peux me permettre. Et donc, encore une fois, de redonner confiance.
Celle qui, dans cette émission, ne nous redonne pas confiance, qui n'est d'aucune aide dans notre compréhension de l'existence et qui ne nous rend pas plus humains, n'en déplaise aux futurs bacheliers, sans doute la connaissez-vous, c'est la culture et son actualité inutile mais si touchante. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 19 juin ?
C'est perfide en fait. On te dit pas prends un hamster, ça vit 2-3 ans, d'ici là t'auras rencontré quelqu'un. Non, on te propose une solution sur 20 ans quand même. Enfin, c'est que tes pronostics en termes d'amélioration de la situation ne sont pas dingues en général quand on te dit prends un chat.
Une pluie de prix, la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, a remis pas moins de 34 récompenses hier, couvrant tous les territoires de la création. Parmi les heureux lauréats, Blanche Gardin repart avec le prix de l'humour et du one-man show, Noémie Lvovsky avec celui du cinéma, et Camélia Jordana avec le prix Suzanne Bianchetti qui récompense une jeune comédienne. Alors, heureuse ?
I'm just a kid from the US, skating, that's like where I came from.
Livrez-nous du mal. C'est aujourd'hui que débute à Paris la semaine de la mode homme printemps-été 2019. Une cinquantaine de défilés sont au programme, mais l'événement, ce sera la présentation jeudi de la première collection homme désignée par Virgil Abloh pour Vuitton. Nommé en mars dernier le prodige du streetwear chic, ancien bras droit de Kanye West, profitera aussi de son passage à Paris pour inaugurer son expo avec Murakami chez Gagosian. Événement. Plus que jamais, Crazy in Love, le nouvel album de Jay-Z et Beyoncé, est enfin sorti sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Révélé par surprise samedi, Everything is Love, c'est le titre de l'album, n'était dispo jusqu'alors que sur Tidal, le service de musique en ligne créé par Jay-Z. Pour l'occasion, les Carter, couple royal du rap américain, ont révélé le clip de Ape Shit tourné au Louvre, qui a déjà enregistré 17 millions de vues en 48 heures. Check it out.
Vous savez pour moi, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas?
Et Picasso, sur le bon tempo, la BNF et l'Opéra de Paris s'associent pour présenter l'expo Picasso et la danse dans l'enceinte du Palais Garnier. Dessins, estampes, costumes et photographies d'époque, près de 130 documents explorent la relation du maître au corps en mouvement. Lui qui collabora très tôt avec les ballets russes de Serge Diaghilev ou avec le chorégraphe Serge Liffard. Et Mathieu Ricard, invité de Boomerang ce matin, à 2 semaines de l'inauguration de son exposition Rencontre de la photographie d'Arles, une exposition dans laquelle l'Himalaya, le Tibet et le Népal jouent un rôle clé, puisque ce sont des lieux que vous n'avez jamais cessé de photographier. Qu'est-ce qui a motivé votre premier voyage dans cette région du monde? Pourquoi vous y êtes allé, en fait?
Précisément parce que je savais ce que je ne souhaitais pas que ma vie soit, c'est-à-dire ennuyeuse, dépourvue de sens, mais j'avais pas vraiment d'idée ce que je voudrais vraiment qu'elle soit. Qu'est-ce qui me tenait vraiment, vraiment à cœur? Et donc, j'ai vu des documentaires tournés pour la télévision française. Il y avait une seule chaîne de télévision à l'époque, en 1967, sur les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion chinoise du Tibet, qui étaient réfugiés en Inde. Et quand j'ai vu ces visages, il y avait 20 Socrate, 20 Saint-François d'Assise, vivants. Aujourd'hui, je me dis, j'y vais. Et donc, j'y suis allé, en juin 1967. J'ai rencontré l'un de ces grands maîtres, Kangur Rinpoché et d'autres encore.
Et en quoi ce voyage initiatique vous a transformé?
Parce que quand vous voyez brusquement qu'est-ce qui peut être au bout du chemin en termes de transformation humaine, l'exemple du meilleur ce que je pouvais imaginer de la perfection humaine. Et donc, vous dites, si quelqu'un peut y arriver, même très modestement, si je fais simplement quelques pas dans cette direction, ça vaut le coup. C'est la meilleure aventure que je puisse souhaiter dans cette existence.
Mais quelle était votre vie avant, Mathieu Ricard? À quoi ressemblait la vie du jeune homme que vous étiez avant cette étape cruciale?
C'était passionnant. J'avais la chance de faire une thèse dans le laboratoire de François Jacob, prix Nobel de médecine. Mon père était un philosophe, un grand intellectuel,
Jean-François Revel.
Ma mère, Yann Le Toublin, qui a 95 ans aujourd'hui, est une grande peintre. Donc on voyait mon oncle Jacques Le Toublin était un explorateur, un navigateur solitaire. Donc j'avais des gens passionnants, mais en même temps, comme je vous disais, on ne voyait pas toujours la correspondance entre les qualités humaines et le génie particulier que ces personnes ou d'autres avaient. Vous prenez 100 jardiniers et 100 philosophes, vous avez la même répartition de gens formidables et de types qui sont difficiles à vivre. Par contre, là, il y avait une telle cohérence entre l'enseignement, la personne, la vie de tous les jours. Chaque minute, on avait l'impression que c'était juste, c'était empreint de sagesse, de compassion, de liberté intérieure. dit, voilà, si je peux aller dans cette direction, c'est la meilleure chose que je puisse faire dans l'existence.
Et la photo, elle était toujours là? Vous avez toujours été un peu photographe?
Alors, j'ai toujours été photographe, c'est à peu près une de ces choses que je sais faire, en gros. Ça va depuis 10 ans, je prends des photos, je faisais surtout des photos de nature. Et évidemment, quand je suis parti en Inde, j'ai commencé à photographier les maîtres spirituels, les visages, j'ai continué. Et puis, quand ça a pris un peu d'ampleur, j'ai commencé à faire des livres de photos, comme tout le reste de mes livres, j'ai décidé, comme j'avais besoin de rien en tant que moine, que j'allais dédier l'intégralité de tous ces droits d'auteur et revenus à des causes humanitaires. Donc j'ai cofondé Karuna, cette chaîne. Karuna, ça veut dire compassion. Cette chaîne, c'est le nom de mon monastère. Et de peu à peu, en grandissant, en 20 ans, aujourd'hui, nous aidons 300 000 personnes en Inde, au Népal et au Tibet, dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux. C'est pas du tout des populations bouddhistes. En Inde, c'est des musulmans et des hindous. Au Népal, c'est mélangé. Au Tibet, c'est des bouddhistes. Mais ce qu'on veut chercher, c'est des populations les plus démunies, essayer d'améliorer leur vie.
Vous avez toujours le même appareil photo que vous aviez à vos débuts?
Alors, j'ai gardé très longtemps des Nikon FM2 pendant 30 ans, complètement manuel. Et puis, c'est un peu Yann Arthus Bertrand qui m'a dit « Tu peux y aller, le digital, c'est aussi bon que le film. » Et c'était il y a presque 15 ans maintenant.
Alors maintenant, vous utilisez Photoshop et tout, vous êtes...
Non, c'est-à-dire que j'utilise maintenant des appareils digitaux.
Quoi. Certes, mais est-ce que vous retouchez vos photos?
Oui, alors je vais vous dire. Donc j'utilise des Canon. Bon, c'est pas parce que je trouve à l'époque c'était ce qui me semble être le plus adapté à mon travail. Alors, je retouche des photos, oui, mais pas pour mettre des oiseaux, il y en a pas. C'est quand vous prenez un paysage ou un visage et que vous avez, c'est la photo qui vous prend. Il y a une émotion, il y a une présence, il y a quelque chose qui vous a impressionné, une lumière. Puis vous regardez la photo et dites « Non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai vu, c'est pas ça que j'ai ressenti. » Et donc, il faut... Parce que vous savez, l'œil a une plage de contraste énorme,
oui,
que n'a pas le capteur et la pellicule.
Et il s'agit de retrouver cette émotion.
Donc il s'agit de rebalancer les lumières, les contrastes entre la terre et le ciel, pour retrouver ce que j'ai ressenti. Avec les diapositives, c'est « Mais oui, mais ça, c'est pas du tout ça. C'était tellement beau, tellement subtil. Il y avait des nuances de couleurs que je retrouve plus. » Et là, si on les ramène, et je dis « Bon, c'est ça que j'ai vu. » Là, on arrête. Et puis, c'est la photo.
Vous nous emmenez en Himalaya, mais aussi en Islande, au Chili, mais aussi à La Réunion. Qu'est-ce qui vous pousse, en fait, à sortir votre appareil?
Alors, pendant 2-3 mois, je ne photographie pas. Et puis, quand il y a ce moment magique, hein, c'est ce qui vous saute à la figure, là, je suis tac, 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 je suis au boulot. Et pour saisir cette beauté qui peut être très fugitive.
Oui.
Parce qu'une lumière dans l'Himalaya, il ne faut pas attendre en disant « Bon, je prends mon temps, dans 5 minutes, je prends une tasse de thé. » C'est parti en 30 secondes.
Cette photo spectaculaire, Mathieu Ricard, réalisée à La Réunion, dans l'océan Indien, où on voit une vague gigantesque, pleine d'écume, se former contre un ciel noir. Qu'est-ce que vous capturez à ce moment-là?
Donc là, j'étais à La Réunion, parce qu'on allait faire une conférence au profit de Karuna Sechen, de nos projets humanitaires. Puis j'ai un très bon ami là-bas qui m'a emmené, évidemment. On était se promener voir les volcans. Et on arrive au bord de la mer, et je vois ces vagues gigantesques. Alors je dis, ah, bouge pas, je reste là 10 minutes. J'ai attendu les vagues. Et puis il y avait des mouvements extraordinaires. Donc à un moment donné, voilà, c'est la lumière était parfaite. Et ça aurait été juste des vagues ordinaires. Mais là, il y avait quelque chose.
C'est la puissance des éléments. Là.
Entre l'angle du soleil, la force des vagues, leur forme et tout ça, qui fait. On voit le bleu dans la transparence. On voit cette vague qui est prête à vous submerger. Donc je ne suis pas un spécialiste des vagues, je ne fais pas du surf, mais. J'ai cette photo qui est effectivement...
Mais il y a une présence aussi, il y a quelque chose de quasi divin ici, qui se joue.
Il y a un livre qui m'a beaucoup influencé dans la photographie, d'un grand photographe de Magnum, qui s'appelle Ernst Haas, un Allemand, et qui a fait un livre qui s'appelle La Création. Et dans ce livre, c'était un des premiers qui a fait ce genre de photo, il y a 30 ans ou 40 ans. Il y a justement une double page sur une vague qui était éthérée, c'était un mélange de lumière et de mouvement. Et ce genre de photo, moi je peux la regarder pendant 10 minutes pour m'imprégner de cette beauté. Et ça éduque mon œil de photographe.
Parlant de lumière et de mouvement, vous savez quoi, Mathieu? Moi, je suis sûr que derrière les stores rouges de notre studio, le soleil est sur le point de sortir des nuages. Il suffira d'entendre les Beatles. Here Comes the Sun, 1969. Sur l'album Abbey Road, vous êtes sur France Inter avec Mathieu Ricard. Vous écoutez Boomerang et tout va bien.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. It feels like years since it's been
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Oh ben il est soleil, hein. Soleil dans sa robe monastique bouddhiste tout en chatoiement de tissu bordeaux et jaune. Soleil dans la forme de son visage, soleil dans son sourire, soleil dans son regard. Mais attention, pas besoin de se protéger, de se tartiner d'écran total ou de porter des lunettes foncées. Non, il s'agit là d'un soleil aux UV bienveillants, rajeunissants, anti-cancérigènes. Un stylo de calligraphie qui surgit d'une poche. Mathieu Ricard, invité de Boomerang ce matin pour ses photographies qui seront exposées aux Rencontres d'Arles sous un chapiteau monumental, éphémère et démontable en bambou, conçu par Shimon Vélez. Il faut peut-être nous la décrire, cette structure, Mathieu.
Bah alors, je n'y suis pas encore allé, je vais découvrir, mais c'est un grand espace, c'est un peu comme une coupole, je crois, de 1000 mètres carrés.
Bah, ça a l'air extraordinaire.
Au travers des bambous, la lumière passe, donc c'est un côté un peu comme ça, cette belle lumière. Bah oui, c'est du bambou, donc j'espère que c'est écologique.
Quel sens est-ce que ça a d'exposer dans un lieu pareil?
C'est mieux que d'exposer dans du béton. C'est un message. Et en même temps, bon, voilà. C'est Simon Vélez, c'est l'œuvre de Simon Vélez. Moi, je suis le photographe invité.
Oui, mais il y a aussi quand même.
Vous savez, le cadre joue. Là, je suis en train d'exposer dans la forêt, dans les Vosges. Mmh. Vincent Muni m'a invité pour le sentier des Vosges. Et aussi dans un petit village en Bretagne à la Gacilly. Donc, chaque lieu est un écrin où les images résonnent différemment.
Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous entrez dans un lieu, quel qu'il soit, qui vous impressionne?
Moi, les lieux qui m'impressionnent le plus, c'est la nature. Je rentre dans une grande forêt où je débouche en Monaco sur un lac. Pour moi, c'est le lieu idéal. L'architecture, je suis pas un passionné, mais c'est vrai que j'imagine que ce lieu va être magnifique.
Diriez-vous que les lieux vous parlent, Mathieu Ricard?
Oui, mais enfin, c'est encore mieux quand ils sont silencieux. Ça facilite la contemplation.
La première fois que vous êtes entré dans un temple, par exemple?
Ah, dans un monastère bouddhiste? Oui, pas vraiment. Je crois que la première fois que je suis rentré dans la petite cabane en bois où se tenait mon maître spirituel, c'était le plus beau des temples parce qu'il y avait la présence vivante de la sagesse et de la compassion. Donc pour moi, ça, c'est ça qui est le plus important.
Mais le caractère sacré d'un lieu, comment ça se manifeste?
Alors, c'est plutôt un lieu qu'un monument. Il y a des lieux où, par exemple, au Tibet, dans des grottes où on vécu ce qui ont l'air de rien du tout, mais où on méditait des grands ermites au XIIe siècle. Et c'est vrai qu'on a l'impression, dans certains cas, le foyer où il faisait le feu est encore là. C'est comme si c'était parti hier. Et on dit que de méditer pendant un mois dans une telle grotte, c'est aussi bien que de méditer un an ailleurs. Parce qu'il y a constamment la présence, le fait qu'il y ait eu la présence d'un grand saint, d'un grand ermite, vous ramène encore plus à la pratique, avec plus de profondeur, plus de dévotion, plus de détermination à progresser vous-même sur le chemin.
Il arrive, je suppose, que ces lieux disparaissent? Non?
Ben, les grottes, pas trop, mais les temples, pour sûr. Ben, en Chine, plus de 5000 monastères ont été rasés pendant la révolution culturelle. Ça, ils ont disparu pour de bon.
Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
Ben, ils ont été reconstruits maintenant, mais quand même, il y a des choses uniques, anciennes, qui ont disparu. Ça, c'est irréparable.
Je vous pose la question parce que je repense, en fait, à cette photo du monastère que l'on décrivait au tout début de cette émission, qu'on voit suspendu à une montagne, perdu dans la brume, dans les nuages. Et on se dit que tout ça, c'est très fragile, en fait. Que tout ça, ça ne tient qu'à un fil.
Ah, ben, l'impermanence. Alors, on la connaît bien au Népal, puisqu'en 2005, en 2015, on a eu deux énormes tremblements de terre, que notre monastère a été en partie détruit, et que notre association, Karuna Sechen, est intervenue dans 600 villages pour aider 200 000 personnes. On a porté 15 000 tentes et 600 tentes de riz, donc l'impermanence, là-bas, on la vit tous les jours. Un lieu de tremblement de terre, ensuite, deux mois après, vous avez des effondrements de terrain et des coulées de boue. L'impermanence, elle est au cœur de la vie, et particulièrement dans ces pays-là.
De mortalité aussi. Ah.
Il y a une grande mortalité, mais surtout, vous avez...
Mais ce sentiment de mortalité, vous l'avez aussi?
Ah ben, quand on est un pratiquant bouddhiste, on se demande toujours qui de la mort ou de demain matin viendra le premier. Et on doit se sentir très heureux d'inspirer à nouveau quand on vient d'expirer. C'est pas un côté morbide et sinistre, c'est justement pour apprécier au mieux chaque instant qui passe, qui a une valeur extraordinaire, au lieu que la journée passe comme du carton-pâte et sans aucun sens. Chaque moment est comme un fleuve d'or fondu. Et quand on médite dans un ermitage, c'est ça, l'appréciation nouvelle du temps ayant une valeur extraordinaire.
Qu'on entend là?
C'est la bourrée de la deuxième suite anglaise de Jean-Sébastien Bach, jouée par Helmut Walscha, qui est un des plus grands interprètes de Bach. Et à chaque fois, j'ai l'impression d'entendre Bach lui-même. Je ne peux pas imaginer qu'on joue ça mieux, plus près de l'esprit et du génie de Jean-Sébastien Bach.
Par quelles émotions est-ce que vous êtes traversé? Je vous vois un peu ému.
L'admiration. Et l'admiration vous élève. Tandis que la critique, quand on voit souvent un peu dans les médias aujourd'hui, comment le chic, c'est de rabaisser tout le monde, c'est incroyable.
Clairement, vous n'écoutez pas Boomerang, Mathieu Ricard. C'est pas du tout le.
Non, mais très souvent, on essaie de rabaisser tous les gens qui sont là. Tandis que là, ça vous élève.
Vous m'avez dit que c'était votre premier choc esthétique.
Ben, c'est un des premiers chocs esthétiques dont je peux me souvenir. Je jouais beaucoup au Bach. À la guitare d'abord, je voulais faire du clavecin, mais je suis parti en Inde avant d'avoir acheté un clavecin, j'avais pas le sou. Mais c'est vrai que ça vous transporte.
Vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles vous l'avez entendu, la première fois?
Oui, parce qu'avec mon professeur de guitare, qui était un fan de Jean-Sébastien Bach, et de Helmut Walscha, qui était ce grand organiste et claveciniste aveugle, et ça nourrit mon adolescence, disons.
On peut méditer sur Bach?
Oui, bien sûr.
Vous le faites, vous?
Oui, mais en même temps, si vous voulez, quand vous êtes dans l'Himalaya, dans un silence parfait, c'est plus la peine. De temps en temps, une fois par mois, je l'écoute. Mais alors, je l'écoute pendant 10 minutes, très, très attentivement. Mais sinon, le silence, c'est la plus belle des musiques. Un silence parfait, si parfait qu'on entend les paysans qui partent de l'autre côté de la vallée. On entend la pluie venir sur la cime des arbres qui fait 5 minutes avant. Hein, ici, vous n'entendez pas la pluie.
Merci infiniment, Mathieu Ricard, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Contemplation, votre exposition ouvrira ses portes à Arles dès le 2 juillet et jusqu'au 23 septembre, et que parmi les événements qui ponctueront cette installation, il y aura notamment un concert méditation avec vous et la pianiste Maria Joao Pires, qui jouera les partitas de Bach les 28 et 29 juillet. On y sera. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
J'avance sans peur dans la dead zone de toute la barre, tenir aux choses à marcher seul sur le volcan, le feu déclenche parfois le vent, le doute est un collier d'épines, je reste pour percer.
Les étoiles tombées, Barbara Carlotti sur France Inter, et c'est l'heure de Sonia De Villers que j'écoute.
Et ben je suis là, Augustin, et je vous retrouve demain.
À demain.